Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent de l'essentiel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Léon Tolstoï, sa vie, son œuvre, son engagement dans la Russie du 19e siècle. Une émission de Claude Ferret.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Claude.
Bonjour.
Voilà, on retrouve Claude Ferret aujourd'hui pour la 8e émission et une émission un petit peu particulière parce que on sentait Claude bouillonner et on savait pas trop pourquoi, mais c'est vrai, c'est cette passion irrésistible de Léon Tolstoï qu'il a. Et donc on va essayer de profiter, de découvrir avec toi la vie de Léon, mais comme toi tu l'as découvert, c'est-à-dire au bout d'un an et demi de lecture passionnée de roman, en fait, puisque tu n'as lu que son œuvre, tu n'avais pas de critique de ce personnage, et tu es parti, tu as pris un billet d'avion, arrivé à Domodedovo, et tu es parti vers Yasnaya Polyana. Alors, on y va comment là-bas? C'est loin de Moscou?
Yasnaya Polyana, la propriété de Tolstoï, ça se trouve à 200 km au sud de Moscou.
Voilà, donc on prend quoi, un train?
On peut prendre un train. J'ai choisi de prendre un bus à la station de Domodedovskaya. Et c'est pas facile à trouver, parce que c'est dans la grande, grande banlieue de Moscou. Alors, j'y suis allé seul, comme je te l'ai dit. Et je voulais ce voyage seul pour aller rencontrer cette personne, ce Tolstoï que je venais de découvrir dans mes livres, tu vois. Donc, il y avait une passion irrésistible. J'ai organisé ce voyage pas mal de temps à l'avance. Et Moscou, réserver l'hôtel, parce que étant tout seul, sans être invité, il faut réserver un hôtel.
Et tu disais, je suis parti là-bas comme Tolstoï, à la façon de Tolstoï, mais t'es pas parti avec 15 malles, 3 valises et tous les chevaux.
Non,
voilà.
Non, c'est ça, on avait changé d'époque, tu comprends. On a changé d'époque, donc j'ai pris quand même l'avion, comme tout le monde. Je ne suis pas allé en voiture. Et donc ce bus que j'ai trouvé, parce que je suis resté 3-4 jours à Moscou, avant d'aller à Yasnaya Polyana, je suis allé voir sa maison où il a habité à Moscou, comme on en a parlé dans les émissions précédentes. Et puis, donc le bus arrive, je découvre, je suis vraiment tout étonné de me trouver là, pour la première fois de ma vie, tout seul avec ma petite valise. Ma femme m'avait fait plein de choses, le moins de chargé possible, mais quand même, je partais 12 jours de Moscou, après je partais à Saint-Pétersbourg. C'était pas rien quand même comme voyage en 12 jours. Et donc, mon arrivée, Yasnaya Polyana, c'était quand même assez épique quand même, parce que quand tu arrives à la ville de Toula, la ville à côté de Yasnaya Polyana, il y a des quartiers assez modestes encore en Russie. Et les tramways, tout qui brinque-balle là sur les rails, c'est assez impressionnant, quoi. J'avais voyagé en Orient avant, j'étais un peu préparé de cette vie un peu simple quand tu arrives. Et puis après, découvrir la propriété de Tolstoï, il faut prendre un taxi quand tu arrives là. C'est encore à 15 km au sud de Toula. Quel taxi il faut prendre? Je ne parle pas le russe, pas un mot, deux mots.
Oh, tu écris le nom sur un papier, je pense que le chauffeur le trouvera. Alors, tu arrives dans cette propriété, mais cette propriété maintenant est devenue un musée. Tu ne la vois pas comme elle est restée, je veux dire, à la mort par exemple de Léon, où il y avait encore de la vie. Est-ce qu'il y a encore des exploitants agricoles? Il y a des gens qui y travaillent ou pas?
Alors, voilà, si tu veux, c'était cette propriété de Tolstoï qui faisait 1500 à 2000 hectares quand il est mort, hein, est devenu en 1917, à la révolution d'octobre russe, une propriété d'État. Et sa femme est restée habiter là jusqu'à tant qu'elle est morte en 19, sa femme. Donc on l'a accepté qu'elle reste dans leur domaine qui est devenu propriété d'État. Et Oui, maintenant, il y a 450 hectares qui sont restés. Et évidemment, depuis 17, c'est un musée d'État, le musée Léon Tolstoï. Enfin, 17. Il y a eu quand même la Seconde Guerre mondiale qui est passée par là. Les nazis sont arrivés jusque-là en Russie et ont occupé pendant un mois ou deux la propriété de Tolstoï. Et avant de partir, ils y ont mis le feu.
Ah, mauvais plan.
Mauvais plan, ça. Elle a fallu la... Voilà, bon, il y a des moujiks qui étaient là, qui ont sauvé les meubles, éteint le feu au risque de leur vie. Oui, bon, alors voilà, donc la propriété, aujourd'hui, c'est un musée d'État. Alors, il y a 450-500 hectares qui existent, hein, et quand je suis arrivé là... je me suis senti tout de suite chez moi, tu vois. C'est étonnant, quoi. Je suis paysan, j'habitais dans la campagne, j'avais lu tous ces romans de Tolstoï et j'allais vraiment à la rencontre encore plus profondément de comment cet homme vivait, puis qui était cet homme, quoi. J'avais vaguement entendu parler de lui avant, donc cet homme m'a vraiment passionné, quoi.
Mais comment toi, le moujik, puisque tu es un moujik, tu es un paysan français, tu n'as jamais eu 15 000 hectares à toi?
Non, jamais, pas un hectare, pas un centiaire même.
Donc, voilà, qu'est-ce qui te fascinait chez ce personnage?
Ah, qu'est-ce qui m'a fasciné chez ce personnage? Ben, si tu veux, dans ses romans, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les émissions précédentes, c'est cette recherche de l'authentique. Cette recherche du vrai, tu vois. Tolstoï, il nous emmène dans cette recherche d'une espèce de ce qu'on appelle la vérité, l'authentique, quoi, de l'existence. Et t'as vu dans ses romans, Tolstoï le décrit à merveille. On en a parlé déjà de cela. Il y avait tout le côté littéraire, le côté recherche de l'existence, le recherche vérité qui m'intéressait chez lui, qui correspond quelque part à ma recherche. Et puis, aussi, surtout, il faut le dire, cette défense des paysans qu'il a eue, qu'il a accomplie, on l'a dit, hein, qu'il a fait l'école aux paysans, et il les a aidés, il a pris leur cause. Et si tu veux, pour moi, ça résonnait profondément. Moi qui suis né en 1947, j'ai mon père qui est né en 1903, ma mère en 1907, qui m'ont parlé du 19e siècle. Je suis pratiquement un produit du 19e siècle. Mes parents... Si on peut dire pratiquement que la Première Guerre mondiale, le 19e siècle, arrivait jusqu'en 1914, on pourrait presque dire ça. Donc j'ai eu des récits vivants de l'histoire de la paysannerie vendéenne, parce que je suis vendéen d'origine, même si je suis mis à voix de cœur aussi aujourd'hui. Mais donc mes parents m'ont parlé de toute cette paysannerie soumise, comme des serfs, quoi. Et de voir, si tu veux, de rencontrer ce Tolstoï en Russie, cet aristocrate qui va se mettre à libérer les serfs, ben c'était comme s'il prenait ma défense. C'était comme s'il était en train de libérer le cerf qui vivait peut-être encore en moi. Oui, c'est sûr, le paysan, le paysan soumis, qui était soumis à tous les grands aristocrates vendéens.
Oui, mais tu admirais le patron. Tu admirais le patron, pas forcément le moujik, c'est ça? Le patron, celui qui avait les moyens, parce qu'on peut dire que Tolstoï, quand même, vu les moyens qu'il avait, il avait aussi la possibilité de pouvoir aider les autres.
J'admire toujours chez Tolstoï cette aptitude à aider l'autre à être libre. Tu comprends ce que je veux dire?
Parce qu'il avait les moyens, peut-être.
Ben, il n'avait pas que les moyens économiques. Oui, bien sûr, mais il y a plein de gens sur cette planète, on le voit.
Qui ont eu les moyens.
Oui. Qui ont toujours des moyens faramineux. On parle de milliards de dollars de fortune. Et qui ne vont pas forcément faire ce qu'il a fait. Oui, Tolstoï avait les moyens économiques pour pouvoir faire ce qu'il a fait, mais il avait les moyens évidemment culturels, c'est bien évidemment, et les moyens artistiques et les moyens humains qu'il a travaillé cela. Donc, si tu veux, j'ai pas été choqué du tout de cet aristocrate qui s'est mis au niveau du moujik, du pauvre, du modeste. Donc je me suis senti son ami. Enfin, on a le droit de se sentir l'ami de Tolstoï, qui qu'on soit. Voilà. J'ai senti que cet homme travaillait, a vraiment travaillé pour non seulement pour aider les moujiks, les pauvres, les ouvriers, mais à aider l'homme à aller vers sa propre liberté, quel qu'il soit.
Donc on repart à Yasnaya Polyana, tu es arrivé, là-bas tu ne pouvais pas y rester, tu ne pouvais pas être hébergé là-bas, donc tu as été obligé de t'y rester combien de jours?
Oui voilà, je suis, dans la première fois que j'y suis allé, je suis retourné après plusieurs fois, donc j'y suis resté plus longtemps, mais la première fois que j'arrivais là, je ne connaissais personne. C'est quand même pas évident, tu arrives au fin fond de la Russie, et donc j'ai rencontré, bon je vais assez vite, je suis resté 2-3 nuits, mais dans un hôtel à Toula.
D'accord.
Après, j'ai appris que le musée, ce qu'on appelle le musée, la province de Tolstoï, à côté, à 500-600 mètres, un kilomètre, il y a un grand complexe où on accueille les gens qui s'intéressent à la vie et l'œuvre de Tolstoï, là où je suis allé des fois prochaines. Mais ce qui a été très important pour moi, c'est que j'ai rencontré une dame, une personne qui est une chercheuse scientifique qui vit toujours, je garde des contacts réguliers avec elle, qui parle très bien français. Deux personnes russes qui sont des passionnés, des spécialistes de Tolstoï. Et je les rencontre, évidemment. On peut dire qu'il n'y a pas de hasard, peut-être quand tu es... Moi, je crois toujours que lorsqu'on est réellement passionné de quelque chose, tu es transporté. Alors après, on dit transféré.
Tu es aimanté aussi, tu attires les autres.
Voilà, tu attires les autres. Et j'ai rencontré cette femme qui parlait français parfaitement. Quand elle a vu ce paysan français tout seul... Arrivé ici, mais c'était extraordinaire, les portes qui m'ont été ouvertes.
Mais hein. Tu te présentais comme un paysan français.
Alors, il faut dire que la Providence, oui, ben c'était vrai. C'est vrai, je ne suis pas un écrivain. Oui, bien sûr. Il faut dire que la Providence a fait que 11 jours avant que je parte, dans mon petit village dans la Nièvre où j'habite, je suis allé à la fin d'une soirée d'écriture. Et il y avait une dame qui animait, qui s'appelle Pascale Roux, je peux la citer parce que c'est une écrivain connue et reconnue, qui a eu un prix Nobel, le prix Goncourt, pardon, excusez-moi, on a le droit de faire des erreurs. Et donc, je la rencontre et on me dit, cette femme-là, tu sais, elle est une passionnée de Tolstoï. Oh là là, mais je dis, il faut vite que je lui parle. Donc, je lui ai parlé, je l'ai invitée chez moi, après l'atelier qu'elle animait d'écriture. Elle me dit, mais écoutez, je ne la connaissais pas. Hein. Elle me dit, mais c'est merveilleux ce que vous faites. Là-bas, j'y suis allé en dernier pour un colloque où j'ai donné une conférence. Il faut absolument que vous rencontrez, je peux la citer, à la Polosina. La dame qui travaille au musée Léon Tolstoï, elle sera ravie de vous accueillir et elle envoie un mail. Et la veille de mon départ, je reçois un mail de Alla Polosina qui m'attendait là-bas. Ça a été quelque chose de très fort et donc je suis arrivé là-bas, donc je la cherche, c'est assez vaste. Et une demi-heure après, bon, elle sait que je suis un passionné de Tolstoï, tout de suite, elle m'emmène dans la maison de Tolstoï. Et je suis là, j'ai beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de gens, de monde qui visitent Tolstoï, la maison de Tolstoï. Le monde entier vient là, des classes entières passent ici. Et je me trouve une demi-heure après mon arrivée là, tout seul, avec elle, dans la maison de Tolstoï.
Et donc tu découvres quelque chose que tu connaissais sans y être allé.
Écoute, Manu, c'est extraordinaire. Voilà, je ne veux pas avoir l'air d'être trop farfelu, mais c'est comme ça. Je découvrais comme si j'avais habité là, comme si j'étais chez moi. Quand je suis rentré dans la maison de Tolstoï, avec cette personne qui parlait français, qui m'expliquait tout, donc j'avais droit pendant une heure et demie à une visite privé, où je posais toutes les questions. J'avais mon appareil photo et elle me dit, mais vous ne prenez pas de photos? Oh, j'ai dit, je suis presque gêné, j'ai l'impression que Lev Nikolaevitch est ici, je ne prends pas des photos comme ça, quoi. Oui, j'avais l'impression que cette maison, tu vois, les terres autour, je suis allé marcher après, et je retrouvais tout ce que j'avais lu dans les romans et... Comme tu as dit tout à l'heure, c'est une grâce, beaucoup m'ont dit, c'est une grande chance, Claude, que tu n'aies rien lu comme critique avant. Donc j'ai eu un contact direct avec la vie, l'œuvre de Tolstoï, que j'ai pu ressentir encore mieux, marcher si tu veux, j'aime beaucoup dire cela, marcher dans les romans, mais pas que dans les romans, dans la vie de Tolstoï, parce que Yasnaya Polyana, on a gardé les choses authentiques quand même, hein, bien évidemment. Quoi.
Alors, c'est, tu marchais dans un rêve alors presque.
Mais oui, c'est
tu
ça.
Tu l'avais imaginé, tout ça. Enfin, du moins, tu n'imaginais même pas, puisque tu l'avais lu, mais ça, ça pourrait aussi faire partie d'un rêve.
C'est ça qui est complexe, parce que dans notre vie de tous les jours, bien sûr, on peut, si tu me pinces, ça fait mal, c'est de la réalité. Mais je veux dire, très souvent, le rêve et la réalité, quelquefois, se confondent. Et c'est vrai, tu as raison de dire que parfois, quand je suis à Yasnaya Polyana, dans tout ce travail que je fais depuis 8 ans sur Tolstoï, je reste quand même les pieds sur la terre, parce que j'étais toujours paysan, puis je continue à avoir des liens avec la terre, évidemment. Mais parfois, c'était très troublant, ce que tu dis, parce que le rêve et la réalité, parfois, se confondent.
Et, c'est pour ça que je te le dis.
se confondent. Et c'est assez troublant. J'avoue que c'est assez grisant, quand même.
Ben, la façon dont tu en parles, oui, on a l'impression que tu étais bien grisé quand tu as fait ce voyage. Alors, tu es paysan, donc ça se comprend un petit peu, mais pourquoi donc, cette passion de la terre tes parents te l'ont transmis et tu l'as retrouvé donc, chez Tolstoï.
Oui. Tu as raison, mes parents, bien sûr, mes parents, des vieux paysans vendéens, de père en fils, de génération, depuis la nuit des temps, des amoureux de la terre, des passionnés de la culture, des petits paysans vendéens m'ont transmis, je suis le fils aîné, m'ont transmis. J'étais pas un grand travailleur hein, quand j'étais jeune. Bon, voilà, je trouvais cette vie quand même très pénible, Manu. Mes parents, tout chez moi, dans la ferme où j'étais en Vendée, j'ai labouré petit avec des vaches. J'ai jamais eu de tracteur chez moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, 23 ans je suis resté. Donc j'ai fauché avec la faux, j'ai labouré avec la charrue, avec le cheval. Donc si tu veux, oui, ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand j'ai rencontré Tolstoï, que cet aristocrate lui-même a labouré avec ses chevaux. Si tu veux, j'ai vu que dans toutes ces descriptions de scènes paysannes, quand il parlait de la campagne, je sentais que il avait vraiment contacté ce labeur du paysan, du rapport avec la terre, tu vois. Et cette profonde honnêteté, il n'y a pas de tricherie avec le travail de la terre pour survivre. On ne peut pas tricher, ce n'est pas possible. Sinon tu meurs, tu comprends. Et ça, Tolstoï m'a vraiment touché là-dedans. Et donc il y a deux volets chez Tolstoï qui m'ont beaucoup touché. Le côté littérature qui dévoile l'existence de l'homme et ce vécu quand Tolstoï va travailler au champ, tu vois, ou fait les foins, va hercer avec ses chevaux. Mais j'ai l'impression que je suis avec mon père. J'ai l'impression que Tolstoï décrit les scènes de vie de mon enfance. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une espèce de contact, réminiscence, de réémergence, de réminiscence. Il me fait revivre, c'est l'art d'un génie aussi, hein, il me fait revivre mon existence, quoi. Il m'en fait prendre conscience. Je dirais même plus, Manu, que Tolstoï m'a certainement aidé à accepter, à honorer encore, à reconnaître pleinement ma condition de paysan. Et en être
fier.
Voilà. Ouais, je peux dire ça, oui.
Alors, tu n'as pas pris de photos. Tu nous parles. Bon, là, ce sont des sentiments, c'est des choses qui sont parfois difficiles à faire passer, surtout à la radio si on n'a pas trop de temps. Ouais. Mais par contre, décris-nous un petit peu ce que tu as vu là-bas. Comment c'est
Voilà. Mais oui, j'ai plein de photos, bien sûr. J'ai fait des.
Mais
des,
nous, on ne pourra pas les voir.
On pourra pas les voir.
Décris-nous-les.
Voilà. Donc, quand tu arrives dans cette propriété, il y a encore les deux petites tours. Deux petites tourelles pour rentrer dans la propriété. C'était quand même Tolstoï, comme je l'ai dit déjà 100 fois dans ses émissions, c'était sa femme, était la princesse Volkonsky. Donc c'était le domaine des parents de sa femme, donc des princes Volkonsky. Donc il y avait deux petites tourelles qui sont toujours là, avec les toits verts, tu sais, comme on voit
polychrome,
aussi. Polychrome,
là.
Ouais, vert et puis blanc. Et puis tout de suite, l'étang. Il y a un bel étang à gauche, un grand étang qui est magnifique avec des grands arbres, tu vois, qui penchent sur l'étang. Là, Tolstoï le décrit souvent, cet étang. Et en face, tu continues, il y a une grande allée de 200 mètres de bouleaux magnifiques qui se rejoignent en haut. Tu vois, c'est une allée somptueuse. Et tout au fond, il y a dans les bois la grande maison où Tolstoï habitait. Grande, mais pas, ça ne fait pas château, quoi. Maison en bois, en pierre, et les fondations. Et à gauche, avant d'arriver chez lui, là où il y a les conférences, il y a la maison, on appelle ça la maison des Volkonski, la maison des ancêtres de sa femme. Et là, bah, c'est une vieille bâtisse, mais en pierre et en bois, comme la Russie du 18e siècle, elle est du 18e siècle. Et cette belle grande bâtisse, le toit est ouvert, tu sais, comment. Et bon, bah, c'est les bâtisses des aristocrates du 18e et 19e siècle. Les tangs, les chevaux autour. Et si tu veux, on a gardé toutes les dépendances, les granges, les greniers, tout est en bois. On a gardé, on a certainement dû reconstruire, mais bon, il n'y a pas mille ans que Tolstoï est mort, il y a un siècle. Donc, on a reconstruit, alors tout est en bois. Alors, oui, les gens me disent, mais comment ça se fait-il? Comment se fait-il qu'à la révolution russe, tout ça n'a pas été saccagé? Je crois que je l'ai dit, mais bon, Tolstoï était quand même immensément connu, c'était l'âme russe, même s'il était mondialement reconnu comme écrivain et comme précurseur de la non-violence, avec tous ses écrits non-violents. Donc non, Lénine aimait beaucoup l'œuvre et la vie de Tolstoï, donc ils ont conservé ce domaine.
Et donc là, c'est les bâtisses. Est-ce que les paysannes, les moujiks, il n'y en a plus? Il n'y en a pas dans cette propriété?
Si, il y en a encore qui travaillent. Mais oui, 400-500 hectares. Il y a des grandes forêts. Donc dès que tu sors de la maison de Tolstoï, tu as les grandes forêts tout de suite devant la maison. Des bouleaux, bien sûr, des chênes, des frênes, des tilleuls, des grandes forêts tout de suite. Et puis au milieu de ces grandes forêts, tu as des immensités de champs, quoi, où j'ai gambadé, couru là, et plus loin, 1,5 km après, au fond de la propriété, ça descend, et il y a une petite rivière qui s'appelle la Voronka, et là, Tolstoï, on décrit ça, sa femme, toutes les coutures, quoi. Et figure-toi que je suis allé sous sa tombe. Je ne suis pas un idolâtre des tombes, mais bon, il fallait quand même que j'aille sous sa tombe. Vous savez qu'il a été enterré dans sa propriété. Et il a voulu se faire enterrer civilement, comme tu le sais, et donc sans tombe, rien, juste un petit monticule, un petit tertre, tu vois, qui dépasse. Et c'était très étonnant, j'étais fatigué, j'arrivais de Moscou de passer 3-4 jours. Je me suis assis à côté sur un arbre, là, sur un arbre et sous des arbres, devant la tombe de Tolstoï, puis je me suis dit, mais non, ça ne me faisait aucune émotion, quoi. Je lui ai dit, Tolstoï, s'il est mort, mais il n'est pas là, quoi. Il est dispersé dans le cosmos, dans l'esprit des gens.
Et tu étais tout seul?
J'étais absolument tout seul.
Ah, ça, c'est extraordinaire.
Oui.
Parce qu'en général, quand on va dans des lieux comme ça, qui ont été habités par des gens célèbres, il y a toujours un tas de gens, de visiteurs, de touristes, et on ne se sent pas forcément imprégné. Là, tu as eu vraiment cette chance d'être...
Oui, je comprends ce que tu dis. J'étais seul à y aller, mais j'ai rencontré... j'y étais au mois de fin mars 2004. Fin avril, pardon, 2004, la première fois que j'y suis allé. Donc, fin avril, il n'y a pas encore des tonnes de touristes.
Mais il y avait du monde qui
Il y en avait, était. Il y en D'accord. avait déjà. Il y avait mais la chance que j'ai eu, beaucoup de gens, parce qu'il y a des groupes qui arrivent, tu vois. Il y avait des classes, plusieurs classes, des jeunes très attentifs qui viennent. Et là, les deux fois que je suis allé avec cette dame visiter la maison de Tolstoï, j'étais seul dans la maison. Et j'y croyais pas de mes propres yeux. J'aurais jamais imaginé ça 8 jours avant de partir, Manu.
Donc, ce qui t'a permis de t'imprégner, de t'imprégner.
De m'imprégner, poser des questions. Et j'y suis retourné après plusieurs fois tout seul pour sentir, voir ses bureaux, là où il écrivait. Je suis resté longtemps assis sur le seuil de la porte, là où il a écrit Anna Karénine, tu vois, Guerre et Paix. Bon, mais... Il ne faut pas faire non plus, bien sûr, d'idolâtrie d'un lieu. Et c'est quand même le génie, le créateur, l'artiste, il est partout.
Il y a d'autres lieux que tu as visités ou pas là-bas?
Bien sûr, j'ai visité d'autres lieux. J'ai visité, comme je te dis, Moscou, sa propriété à Moscou, là où il habitait, une grande belle maison en bois, mais je crois que j'en ai parlé dans une mission précédente. Et puis il y avait une autre, Pirogovo, où je ne suis pas allé parce que je ne peux pas tout faire. La Russie, ce n'est pas un petit village de Vendée où je suis né, ou un petit village d'ici. Tout est des distances absolument énormes.
Alors, je pense que tu nous en parleras dans une prochaine émission. Là, tu as choisi un morceau de musique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, voilà, parce que dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la femme de Tolstoï. Et la femme de Tolstoï, Sofia Andreevna Tolstoïa, aimait beaucoup jouer de piano, et particulièrement les sonates de Beethoven. Et j'ai choisi la sonate numéro 17 en ré mineur de Beethoven, La Tempête, et j'ai choisi une personne qui est absolument merveilleuse comme pianiste. J'encourage à écouter ses interprétations, c'est Elisabeth Zombart qui va nous interpréter la première partie de la sonate numéro 17 en ré mineur de Beethoven.
Alors, la femme de Léon Tolstoï, tu voulais en parler. On parlera de tes rêves plus tard, dans une autre émission, de ta découverte.
Voilà, donc Manu, je pensais pour nos auditeurs qui nous écoutent, et puis pour être honnête et équilibré dans ces émissions, qui parlent de la vie et l'œuvre de Léon Tolstoï, ne pas parler de Sofia Andreevna Tolstoïa, sa femme, ça serait vraiment une grosse injustice et une grosse erreur.
Mais est-ce qu'on peut dire que ça a été sa muse, oui ou non?
Oui, certainement. C'est moi qui parle. J'ai vraiment envie de dire, et je ne suis pas forcément le seul à dire cela, que sans sa femme, Tolstoï n'aurait pas écrit Guerre et Paix ou Anna Karénine. Sans sa femme, Tolstoï ne serait pas devenu le Tolstoï que l'on connaît. J'ai envie de dire carrément cela.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Bon, il faut quand même dire que le génie créateur et littéraire de Tolstoï existait avant qu'il rencontre sa femme, hein, c'est bien évidemment. Mais comme on a vu dans les émissions précédentes, Tolstoï, à 34 ans, à 32 ans, cherchait une stabilité. Il était dans une débauche, il tournait en rond un peu après la guerre du Caucase, hein. Il a fait ses voyages en France, en Europe. Et pourquoi il lui fallait une stabilité ? Mais peut-être comme beaucoup d'hommes, hein, il lui fallait une stabilité, un ancrage. Et Tolstoï, n'ayant jamais eu de parents, enfin pratiquement pas, sa mère est morte, il avait 2 ans, son père il avait 7 ans, 8 ans. Donc il était très, c'est lui qui a hérité ce domaine, il lui fallait vraiment, il voulait ce domaine, il était très attaché à ce domaine, il avait déjà aidé ses paysans à l'âge de 19 ans, et il sentait qu'il lui fallait une stabilité, mais il lui fallait se marier, avoir une famille, fonder une famille. Ça, il lui fallait cela, mais ce qu'il n'avait pas pressenti, d'après moi, hein, c'est qu'il ne savait pas que cette femme allait autant l'aider à faire ses œuvres futures, quoi, hein, surtout Guerre et Paix, Anna Karénine et d'autres aussi. Hein. Alors pourquoi ? Parce que c'est l'histoire d'un couple aussi. Hein. C'est l'histoire d'un couple. Sofia Andreevna, elle avait comme que 18 ans quand elle s'est mariée, c'était la femme née au Kremlin, la femme d'un médecin célèbre au Kremlin, bonne éducation, jouant du piano, elle avait écrit une petite nouvelle déjà, c'est une femme intelligente, mais à 18 ans, du jour au lendemain, arrivée dans le fin fond de la Russie, dans une ferme où il y a la boue l'hiver et tout, hein, fin septembre, ils se sont mariés. Le soir du mariage, à 8 heures, ils se sont mariés, ils sont partis tout de suite en carrosse. Il avait loué ou acheté, je crois, un super carrosse avec 6 chevaux, direct, dans la propriété. Donc voilà, donc elle a eu tout de suite cette femme à 18 ans, 20 ans, 19 ans, elle s'est trouvée à corriger, à retranscrire les épreuves de Guerre et Paix. Donc elle a été quelque part sa stabilité, elle l'a aidé pour les finances, on va en parler de cela. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus à cela ?
Alors, tu parles de ses enfants. Il en a eu, quelques-uns.
Oui, donc il faut savoir, je ne vais pas le dire déjà, mais le premier soir après le mariage, ils arrêtent dans un hôtel de poste, comme on dit autrefois, hein, un hôtel des tsars où ils arrêtaient. Il avait les moyens, hein, pour faire une étape, parce qu'il y avait 200 km à faire. Et il faut savoir quand même que Tolstoï, 9 mois précisément après cette première nuit, il y avait le premier enfant qui naissait. Hein. Comme on le sait, Tolstoï était un robuste et un actif dans le domaine relationnel, sexuel, quoi. Bon, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Hein. Mais bon, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Je ne veux pas m'avancer comme trop, non. Bon, bref, Tolstoï était ainsi, quoi. Et voilà, donc, ils ont eu, bien sûr, elle a eu 13 grossesses et ça n'a été pas rien, comme il y en a eu 5 qui sont morts, je l'ai déjà dit. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette éducation que sa femme avait, tu vois, hein, cette jeune femme de 18-20 ans, elle commence à passer des nuits entières à corriger, à transcrire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Tolstoï écrivait extrêmement vite. Minuscule et avec plein de fautes, plein de gribouillages. Il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas d'ordinateur, hein. Plein de gribouillages. Donc il fallait. Elle avait une capacité de travail, sa femme. Ça, je veux vraiment insister là-dessus. C'est pour ça qu'on parle de la vie de sa femme. Je veux insister là-dessus, lui rendre hommage. Et je l'ai senti quand je suis allé là-bas aussi que parfois on parlait de Tolstoï et pas suffisamment de sa femme. Mais on va voir qu'il y a des livres d'elle.
Mais quelqu'un aussi productif, aussi emballé que Tolstoï, comment elle le supportait? Elle arrivait à... Il était quand même certainement assez bourru, non?
Oui, très difficile. C'est le type de femme qui se consacre totalement à son mari, à l'œuvre. Elle est absolument passionnée, elle sait quand même, parce que quand elle s'est mariée avec lui, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, il y avait quand même les récits de Sébastopol, Enfance, qui avait été écrit déjà, les Cosaques avaient commencé, donc il était déjà reconnu.
D'accord, elle aussi, donc elle est fascinée.
Elle est fascinée. Ses parents savent que c'est un riche héritier et qu'il est déjà, il a déjà une petite, bonne petite gloire à 34 ans.
Oui, mais elle ne recherchait pas forcément ça. Elle est issue d'une bonne famille.
Pas du tout. Donc... Mais tu sais, à cette époque-là, je crois qu'elle... Non, c'est pas que je crois. Je suis sûr qu'elle était quand même... elle a été admiratrice de Tolstoï.
Du personnage.
Elle était admiratrice. Et puis, les parents ont aidé. La mère de Sofia Andreevna connaissait Tolstoï. Et ils avaient, je crois, même pas 10 ans de différence. Et donc, oui, ça a été... pour cette femme, cette jeune femme qui arrive dans la campagne, elle est restée 17 ans dans cette campagne, ça a été quand même une rude épreuve. Parce que comme tu dis, Tolstoï, ce genre de personnages ne sont pas faciles à les vivre. Bien évidemment, quoi. Et donc, il n'était jamais content dans son travail, tu vois. Elle passait mais des nuits à Guerre et Paix. Il faut savoir qu'elle a recopié manuellement plus de 7 fois Guerre et Paix, 2000 pages. Donc elle passait ses nuits, tu vois, à déchiffrer ce qu'il avait mis en marge, à savoir quel mot à lui suggérer le lendemain matin sur son bureau, une autre explication de ce mot ou non. Alors, et ça correspondait pas. Il fallait qu'elle recommence. Un travail de titan. Et il faut qu'elle soit une sacrée bonne femme. Bon, il y avait des serviteurs évidemment, mais bon, il faut s'occuper de la maison. Donc voilà, donc on peut rendre. Et elle a été d'une fidélité à Tolstoï toute sa vie. Ça, c'est
et lui aussi.
Lui aussi, contrairement à sa vie de débauche qu'il a vécue jusqu'à avant, énormément, il en parle. C'est pas moi qui le révèle. Hein. Il n'y a rien à révéler, je ne le révèle pas. Il y a des livres, tu peux lire 10 000 pages où on en parle. Enfin, pas 10 000 pages, mais beaucoup de livres ont été écrits là-dessus, sur les aventures de Tolstoï. Mais. Après, si tu veux, non. Bien que la dernière personne qu'il a aimée, c'était une paysanne du domaine. Et Sofia Andreevna est très jalouse de cette femme. Mais non, il n'y a pas eu d'aventure. Il y a eu des contacts. C'est des gens qui avaient plein de monde à la maison, bien évidemment. Hein. Non, ils ont fait un couple qui s'est fini difficilement. Ça s'est terminé comme tout le monde le sait. La vie du couple Tolstoï a été pas du tout facile, quoi. Mais elle a accepté, si tu veux, son mari avec ses fautes et son caractère souvent impossible. Mais il était bon aussi en même temps. Tu vois, c'est des caractères, comme je l'ai dit dans la précédente émission... Il paraît qu'elle aurait dit une fois, j'avais moins 25 maris dans Tolstoï, tu vois. C'est des gens tellement passionnés. Et puis, elle n'était pas du tout, elle, préparée à cette vie relationnelle de la chair, comme on dit, hein, pour parler pudiquement. Hein. Et lui, c'était très actif. Et ça a été, elle en parle de cela, je ne le révèle pas. C'était, pas toujours facile, mais elle s'est pliée à tout cela. Et puis, donc, il y a eu cette grande aventure à la fin où Sofia Andreevna, ça devenait difficile, quoi. Donc, elle dit dans son journal du 19 septembre 1897, je la cite, « Un homme de talent place toute son intelligence, toute sa sensibilité dans ses œuvres et réagit à l'existence avec mollesse et indifférence, dit-elle. » Voilà. Voilà, donc parce que à cette époque-là, 1897, elle s'occupait de tout le domaine, de l'argent et de tout, de la gestion de tout ce qui. Tolstoï, vous ne pouvez plus s'occuper de tout ça. Le journal du 11 septembre 1898, elle dit oui, étonné tout le monde. Il en est allé ainsi toute sa vie et il a réussi à étonner le monde entier, qu'elle dit. Ça, c'est vrai, parce qu'elle fait allusion là à une fois, il s'était jeté dans l'eau, il était jeune, tu vois. Et puis, il n'arrivait plus à sortir de l'eau. Il avait fallu que les paysannes viennent le sortir. Il faisait des coups pendables comme ça. Alors, le 19 septembre 1898, elle dit « Mon mari, incomparablement doué, quelle compréhension stupéfiante de la psychologie et de la vie des êtres humains dans ses écrits. Et quelle incompréhension, dit-elle, quelle indifférence envers les êtres les plus proches de lui. Il ne connaît, il ne comprend ni moi, ni ses enfants, ni ses amis, ni les autres. » Donc c'est un... c'est des critiques qu'elle fait de très dures de tout cela. Donc c'est évident que pour elle, ça devient très difficile tout ça. Et elle dit dans son journal du 22 novembre 1898, j'ai sorti tout cela pour illustrer le côté aussi difficile qu'elle a vécu. Comme j'ai besoin de son secours, dit-elle, besoin qu'il me défende contre la vie et contre moi-même. Il a raison à la face de l'humanité. Oui, c'est un grand écrivain, mais ce n'est pas cela qui m'aidera. Il n'est pas un mari pour ce qui est de l'aide, mais surtout il n'est pas un père pour ses enfants adolescents. Or, pour une mère, c'est affreux. Dur, tout ça. Hein.
Elle est assez dure avec lui, là.
Mais elle est dure avec lui. C'est vrai aussi. Tu veux dire, dans leur histoire, c'est, ils ont raison tous les deux. Et malgré tout cela, elle ne fléchira pas. Elle continuera à s'occuper des comptes du domaine, parce que lui ne s'occupe de plus rien, il a tout donné à cette époque-là, à s'occuper des éditions même. Et là, c'était surtout dans cette époque-là, elle va beaucoup jouer du piano. Je ne me souviens plus, à une année ou deux près, dans ces années-là, 1898, il y a leur dernier enfant qui meurt, un merveilleux enfant, le 13e, il meurt à 6-7 ans, du croup, Vanetchka est mort. Et là, ils s'en remettent difficilement tous les deux, même Tolstoï. Elle s'en remet difficilement. Et elle joue beaucoup, beaucoup, beaucoup de piano. Énormément, jusqu'à 2-3 heures par jour. Et il y a un grand compositeur russe, Sergueï Ivanovitch Tanaïev, un grand compositeur, qui vient souvent jouer à la maison. Et dont Sofia Andreevna Tolstoï, elle joue avec lui. Et j'ai presque envie de dire, je m'avance, les auditeurs trouveront peut-être que j'exagère, mais ils ont eu pratiquement un amour platonique. Il ne s'est jamais rien passé entre eux, absolument rien, mais elle admirait le jeu, le piano de Tanaïev, qui était, d'après que c'était merveilleusement, jouait merveilleusement bien, il lui donnait des cours, tout ça. Et donc, il y a eu cette grande histoire relationnelle entre Tanaïev, il venait à la maison, bien sûr, c'était pas en cachette du tout, hein. Et Tolstoï a été à un moment donné extrêmement jaloux, et c'est là, on en parlera peut-être la fois prochaine un petit peu, parce que les émissions arrivent à leur fin, c'est là, à partir de là, que Tolstoï a écrit la fameuse sonate à Kreutzer. Alors voilà, donc elle dit dans son journal, je vais terminer avec les journaux, du 22 novembre 1898, non, je l'ai dit celui-là, pardon, du journal du 23 novembre 1900. Elle dit, j'ai grand mal à découvrir, à deviner ce qui fait vivre mon mari. Jamais plus il ne me parle de ses écrits ou de ses pensées, et il participe de moins en moins à ma vie. Oui, il faut dire que déjà en 1900, 10 ans avant qu'il meure, Tolstoï et se donne tout entier à ses œuvres socio-humanistes. Gandhi lit déjà « Le royaume des cieux est en vous ». On verra après les correspondances entre Gandhi et Tolstoï. Donc il est complètement, il est un peu parti, quoi. Non seulement il veut tout quitter, mais il veut quitter le monde, si tu veux. Pas physiquement, mais oui. Et elle, il y a une incompréhension, quoi, qui s'accumule, quoi. Une incompréhension. Et en même temps, je comprends tous les deux.
Sa femme joue de 2 à 3 heures de piano par jour. Et
pas tous les jours quand même, mais souvent.
Pas tous les jours, souvent. Et donc tu voulais nous faire écouter du Chopin, pourquoi ce choix?
Oui, alors je voulais vous faire écouter, les Tolstoï avaient toute l'œuvre de Chopin, entière. Et elle aimait beaucoup le nocturne de Chopin, les nocturnes de Chopin. Et j'ai envie de vous faire écouter la première partie de l'opus 48, numéro 1, de Frédéric Chopin.
Voilà, on coupe un petit peu Chopin et on revient à un personnage que Léon Tolstoï a beaucoup côtoyé, puisque a priori, il était presque son bras droit, c'était Vladimir Grigorievitch Tcherkov. Sa femme ne l'aimait pas beaucoup.
Ben oui, Tcherkov était le grand bras droit de Tolstoï, le plus grand disciple, un aristocrate, un militaire, qui s'est donné tout entier à l'œuvre de Tolstoï, quelques années avant 1900 quand même, je ne me souviens plus exactement quand il l'a rencontré, 20 ans avant, peut-être 15 ans. Et lui, il a voulu créer le tolstoïsme, Tcherkov. Et donc, il voulait absolument que tout soit, les œuvres de Tolstoï après 1981, soit dans le domaine public. Donc il a fait signer des trucs à Tolstoï, des documents dans la forêt cachée pour qu'il laisse toutes ses œuvres. Et sa femme travaillait là-dessus, quoi, elle aussi. Donc elle voyait ça d'un mauvais œil. Alors elle disait, mais alors Tolstoï, il s'occupe de l'humanité, puis il délaisse ses enfants et sa femme. Il récolte des fonds pour les pauvres, mais ne se soucie nullement des études de ses enfants. Bon, ils n'étaient pas à l'agonie, bien sûr, mais ça a été une grande lutte, Tcherkov et Sophie Andrievna, ça a été une lutte énorme, finale, les 10 dernières années, quoi. Voilà, donc on arrive à la fin, on pourrait parler beaucoup plus, mais ce que je voulais dire, comme avant de terminer, c'est qu'en 2010, il est sorti un très gros livre, un très beau livre sur ma vie, de la femme de Tolstoï, qui est vraiment très intéressant, celui que ça intéresse, pour comprendre ce grand écrivain, et puis c'est aussi comprendre la Russie du 19e, quoi, à travers ma vie. Et puis elle avait écrit avant aussi Journal intime, des années 1862 à 1900. Et un autre livre qui est sorti, il est sorti beaucoup de livres inédits, Ma vie et à qui la faute, qui est sorti en 2010 lors du centenaire de la mort de Tolstoï. Ça n'avait jamais été édité, je crois même en Russie. Ils ont été dans les archives à Moscou des œuvres originales de Tolstoï et de sa femme. Donc, à qui la faute, c'est très beau parce que c'est la réponse à la sonnette à Kreutzer où l'amour charnel domine dans la sonnette à Kreutzer, et en gros, hein, en deux mots, hein. Où il dénonce aussi Tolstoï, l'amour charnel. Et puis elle, dans À qui la faute, ben c'est plutôt cet amour subtil, spirituel qu'elle défend. C'est très beau, À qui la faute. Et un dernier qu'elle a écrit, qui est sorti en 2010, c'est aussi Romance sans parole. Je ne l'ai pas lu celui-là. Mais je sais qu'elle parle beaucoup de ses rapports avec Taneyev, ce grand compositeur musicien avec qui elle travaillait, où ça a été sa consolation. Elle parle de la perte de son Vanetchka, de son dernier enfant. La musique a été son ressourcement et vraiment sa recréation, quoi, si on peut dire, quoi.
Mais sa femme, qui a été rédactrice donc d'une majorité de ses œuvres, elle a arrêté d'écrire quand ? Et c'est au parti du moment où ils se sont plus ou moins pas séparés. Mais où,
ah, ils ne sont jamais séparés.
Voilà, où lui est parti ailleurs.
Ben, si tu veux, elle se fatiguait beaucoup. Et dans les dernières années de sa vie, fin 19e siècle, il y avait ses deux filles. Tolstoï était très proche de ses deux filles, Tatiana et puis Alexandra. Donc elle prenait le relais pour aider son père à transcrire. Et donc elle était jalouse. Elle se sentait de plus en plus éloignée de l'œuvre de son mari. C'est très dur parce qu'alors qu'elle s'est donnée tout entière à cette œuvre littéraire. Et petit à petit, mais non, même dans la sonate à Kreutzer, elle a encore, c'était une critique énorme du couple, la sonate à Kreutzer, du mariage. Tolstoï a été très très dur, il a dénoncé l'amour bestial dans le mariage, il a dit carrément que le mariage c'était de la prostitution dans ce roman, la sonate à Kreutzer. Donc elle s'y retrouvait là-dedans, elle. C'était vraiment, elle se voyait mise à nu, si on peut dire, là-dedans. Et donc, c'est elle qui a été voir le tsar à Saint-Pétersbourg pour faire éditer, tu vois, malgré cela. Non, c'était quelqu'un de très particulier, sa femme. Donc, voilà, on peut dire ça aujourd'hui, dans cette émission.
Alors, parle-nous de la prochaine émission, peut-être.
Alors, la prochaine émission, la 9e émission, nous allons parler de Tolstoï, qui accentue toujours son travail de non-violence, hein,
Et là, il s'en va voir quelqu'un.
Ben, il s'en va voir quelqu'un. Il va toujours voir les gens dans les monastères, tout ça. Mais il va surtout travailler à son troisième grand roman, Résurrection, qui va être une dénonciation de l'injustice des déportations en Sibérie, que les tribunaux, il y a Maslova, il y a une femme héroïne là-dedans qui va être condamnée injustement, déportée en Sibérie. Et donc tout ça, il va travailler énormément là. Pourquoi il va travailler en ce roman, alors qu'il avait dit qu'il ne ferait plus de revue littéraire? Mais il va donner, au grand désespoir de sa femme, tout le bénéfice de Résurrection, qui est énorme, pour faire immigrer les fameux Doukhobor, cette secte de non-violents, au Canada. Donc on parlera de cela.
C'est quand qu'il s'en va rejoindre, enfin, ou qu'il va rencontrer Gandhi?
Ah non, Tolstoï n'a jamais été rejoindre Gandhi.
Il ne l'a jamais rencontré, jamais. Il n'a fait que des correspondances.
C'est Gandhi qui est venu le voir. Non. Gandhi n'est pas venu le voir. Gandhi lui a écrit trois fois. Et Tolstoï lui a répondu deux fois, je crois.
Donc ce ne sont que des correspondances.
Des correspondances. Mais Gandhi, donc on va commencer à parler de Gandhi dans la prochaine émission, surtout dans la dernière, parce que c'est dans la dernière émission entre 1905 et 1910, ou 1908 et 1910, je crois, 1908 et 1910, que Gandhi et Tolstoï auront des correspondances par lettre, quoi. Voilà, donc dans cette prochaine émission, Le Royaume de Dieu est en vous, que Gandhi est en train de lire. Je parlerai, je pense, des gens comme Romain Rolland, fin 19e, qui sont très influencés, comme vous le savez, écrivain français. Hein. Romain Rolland qui est très influencé par l'œuvre de Tolstoï. On parlera en deux minutes de cette fameuse Sonata Kreutzer, de la mort d'Ivan Illich, Maître et serviteur, le père Serge, des bijoux. Alors que Tolstoï avait dit qu'il n'écrirait plus, des bijoux de l'œuvre littéraire mondiale. La mort d'Ivan Illich, Maître et serviteur, le père Serge et Sonata Kreutzer.
Bon, ben on se retrouve tous dans un mois et là, ben on va continuer à écouter la nocturne de Chopin qu'on avait démarré tout à l'heure. Merci à toi, Claude, et à bientôt.
Au revoir.